bienvenue pour cette nouvelle émission dans notre série sur la thématique de l'espérance. J'accueille encore aujourd'hui Philippe Délay, bonjour.
Bonjour Gaël et bonjour tous nos auditeurs.
Une nouvelle fois, nous poursuivons notre série pour parler bien de prophétie. Nous avions, lors de notre dernière émission, terminé autour de l'explication de la mort d'Alexandre le Grand, puis la division à ses quatre généraux et la répartition donc de son royaume, qui n'est autre que la troisième bête de cette prophétie dans le chapitre 7 et chapitre 8 d'ailleurs de Daniel. Nous allons, si vous le voulez bien, découvrir la quatrième bête qui arrive ensuite et qui semble être liée aux jambes de fer de la statue dans le songe du roi de Babylone. Mais cette bête-là a l'air quand même un petit peu particulière, Philippe.
Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Je vais quand même vous lire le verset 7 du chapitre 7 du livre de Daniel. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Lors de notre 19e émission, nous avions présenté la statue de Nebuchadnezzar. Nous avions avancé que les jambes de fer correspondaient à l'Empire romain. À ce stade de notre étude, nous pouvons confirmer sans aucun doute qu'il s'agit bien de l'Empire romain. Et je vous fais un bref rappel. La Bible nous donne l'information claire. Le bélier associé à l'ours et le bouc associé au léopard représentent le royaume des Mèdes et des Perses, et ensuite le royaume grec. En fait, il est logique, et l'histoire le confirme, que cette quatrième bête soit associée à l'Empire romain, même s'il n'est pas nommé précisément. Cette bête aux grandes dents de fer correspond aux jambes de fer de la statue du chapitre 2 de Daniel. Je vous avais dit que les prophéties concernaient le peuple de Dieu à travers l'histoire. Et il n'y a pas, à cette époque, d'autres royaumes qui ont un rapport si étroit avec Israël que l'Empire romain. À cette époque, il n'y a pas un autre empire de cette taille dont le caractère correspond aux adjectifs terrible, épouvantable, extraordinairement fort et qui font écho au verbe de la statue du deuxième chapitre de Daniel. Et je vous invite à lire le verset 40. Comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Je vous rappelle, lors d'une précédente émission, nous avions évoqué la dureté du fer.
Mais nous voyons que cette bête-ci possède 10 cornes. Ces cornes représentent-elles aussi des rois ?
Oui, nous l'avons expliqué la dernière fois. Mais si vous le voulez, relisons la courte explication donnée par la Bible elle-même, dans le chapitre 7 au verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Nous avons compris qu'il n'y avait que 4 bêtes. Et celles-ci correspondaient aux 4 métaux de la statue. Et sur cette quatrième bête, il y a 10 cornes qui représentent 10 rois ou 10 états. Alors, il nous faut nous référer à l'histoire de l'Empire romain et comprendre ce qui s'est passé. L'Empire romain vivait les luttes intestines, mais en même temps, et durant plusieurs décennies, il subissait les assauts répétés de tribus barbares qui vivaient au nord et au nord-est de l'Empire. À force de harcèlement, ils finirent par passer et pénétrer dans l'Empire jusqu'à Rome même. Je vous rappelle ce que nous avions déjà cité lors d'une précédente émission, et il s'agissait des Francs, des Burgondes, des Suèves, des Alamans, des Vandales, des Visigoths, des Ostrogoths, des Saxons, des Lombards et des Hérules. Les Hérules étaient une branche qui a été intégrée par l'Empire des Huns, tout comme les Ostrogoths. Donc cet empire romain s'est trouvé partagé, divisé comme les 10 orteils de la statue du chapitre 2. Et ce sont également ces 10 cornes du chapitre 7. Je vous lis la suite du verset 24 de ce même chapitre. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Nous allons découvrir encore un royaume qui sera différent, mais qui s'élève lui aussi de ce royaume, de cette quatrième bête. La parole nous dit qu'il sera différent. Je vous invite à écouter la lecture du chapitre 7, au verset 8. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je vous cite également le verset 21 et 22 du chapitre 7. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et de l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Nous avons affaire à une petite corne qui est en colère. qui parle avec arrogance et qui fait la guerre non seulement à trois autres rois devant elle, mais la guerre aux saints. Comme ces cornes représentent des royaumes, la petite corne doit aussi représenter un royaume, mais pas de la même nature parce qu'elle était différente des autres, qui étaient eux des royaumes politiques. Maintenant, il nous suffit d'identifier quel est ce royaume qui s'est élevé parmi les 10 divisions de l'Empire romain qui soit différent de tous les autres.
Alors, cette petite corne, pour l'identifier, elle a des yeux et une bouche et elle parle avec arrogance. Est-ce que ces éléments sont importants ?
Ils sont même très importants. Et vous savez que dans la Bible, chaque détail a son importance. Mais nous allons chercher plus de précision quant à cette petite corne qui intrigue le prophète Daniel et nous-mêmes par l'occasion. Je vous invite à écouter ce que nous disent les versets 9 à 11 du chapitre 8. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le perpétuel à cause du péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc cette petite corne n'est pas seulement un royaume politique, mais aussi un royaume religieux. Comment en être sûr ? Alors, relisons le chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera le saint du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je vous invite à écouter ce que nous dit Jean-Henri Merle d'Aubigné. Il est né près de Genève en 1794 et il était un pasteur suisse et historien de la Réformation. Je vous cite. « Si Rome est la reine des villes, pourquoi son pasteur ne serait-il pas le roi des évêques ?» C'était le raisonnement que ces pasteurs romains présentaient. Pourquoi l'Église romaine ne serait-elle pas la mère de la chrétienté ? Pourquoi toutes les nations ne seraient-elles pas ses enfants et son autorité leur loi souveraine ? C'était facile de raisonner de la sorte pour le cœur ambitieux de l'homme. C'est ce que fit la Rome ambitieuse.
Vous êtes en train de nous dire que les responsables chrétiens à Rome avaient à l'époque une influence sur l'empereur ?
En fait, c'est pas si simple, mais on va faire léger. Je vous dirais qu'au début du 3e siècle, après Jésus-Christ, l'Église chrétienne s'organise dans un mélange de paganisme et de chrétienté. Et l'empereur Constantin est le principal protagoniste de tout ça. Il se fait baptiser le 22 mai 337 sous son lit de mort, mais il adhère au christianisme au début des années 300. Et en 313, il met un terme à la persécution des chrétiens. Je vous livre un extrait du site historique Hérodote. Devant le succès de la doctrine du prêtre Arius, Constantin s'inquiète d'un schisme qui remettrait en question l'unité de l'Empire. Il convoque lui-même un concile œcuménique à Nicée en 325 pour apaiser les esprits. À la suite de la condamnation de l'arianisme par le concile, l'empereur ordonne l'exil d'Arius. Il inaugure ainsi le césaropopisme, une pratique de gouvernement qui se caractérise par la confusion des affaires séculières et des affaires religieuses entre les mains du souverain. Et au bout de 3 siècles après Jésus-Christ, l'Église universelle catholique est devenue un pouvoir politico-religieux.
Voilà donc pour l'explication de cette quatrième bête. Et surtout, y a-t-il encore des choses à dire sur cette fameuse petite corne, Philippe ?
Énormément de choses que nous aurons le plaisir de découvrir lors de prochaines émissions.
À bientôt.
Merci Gaël, au revoir.